18h.
Et on retrouve les informations avec vous, Anne Fouquemberg, bonsoir.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Christine Lagarde sera bien jugée par la Cour de justice de la République dans l'affaire de l'arbitrage tapis. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la directrice du FMI. Elle comparaîtra pour négligence ayant permis un détournement de fonds publics. Explication Sarah Maquet au début de ce journal. Le verrou fiscal de Bercy validé par les sages du Conseil constitutionnel. Disposition typiquement française qui soumet les poursuites pénales pour fraude fiscale à l'autorisation de l'administration. Le syndicat de la magistrature appelle les parlementaires à se saisir de la question. Nous irons ensuite à Beaumont-sur-Oise, dans le Val-d'Oise, marche blanche organisée cet après-midi par la famille d'Adama Traoré. C'est le jeune homme décédé mardi dans un fourgon de la gendarmerie à l'issue de son interpellation, événement qui a suscité de nouveaux incidents la nuit dernière. 45 nouveaux cas de dopage décelés par le CIO, conséquence d'une deuxième analyse d'échantillons des JO de Pékin et de Londres. Les athlètes concernés, encore en activité, seront exclus des JO de Rio. Au sommaire, du grain à moudre d'été, Raphaël Bourgois.
Comment le jeu Pokémon Go modifie notre rapport à la ville, notre rapport au réel? On en parle avec nos quatre invités, Titiou Lecoq, Philippe Gargoff, Grégoire Hélo et Olivier Ertscheid.
Merci Raphaël et à tout à l'heure, 18h15. Christine Lagarde sera bien jugée devant la Cour de justice de la République pour son rôle dans la mise en place d'un arbitrage privé entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais en 2007. La Cour de cassation a rejeté en début d'après-midi le pourvoi de la directrice du FMI qui vient d'entamer son second mandat à la tête de l'institution. Son avocat se dit ce soir convaincu qu'elle prouvera son innocence. Bonsoir Sarah Maquet.
Bonsoir.
Christine Lagarde devra répondre de négligence ayant rendu possible un détournement de fonds de 404 millions d'euros.
Oui, la négligence en question concerne l'arbitrage privé validé en 2008 par Christine Lagarde, alors ministre des Finances de Nicolas Sarkozy. Un arbitrage entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais concernant la revente d'Adidas et qui a accordé plus de 400 millions d'euros à l'homme d'affaires, les fameux fonds publics détournés suite à la négligence supposée de Christine Lagarde. L'avocat de la présidente du FMI a rappelé également cet après-midi que le procureur général auprès de la Cour de justice de la République avait requis en septembre 2015 un non-lieu. Le renvoi de Christine Lagarde devant la justice serait donc dû, selon certains observateurs, à une défense opaque et contradictoire de la présidente du FMI. Les magistrats de la Cour de justice de la République estiment en effet que l'attitude de Christine Lagarde dans le dossier témoigne, je cite, d'une précipitation et d'une légèreté constitutive de grave négligence de la part d'un ministre chargé de la conduite des affaires de l'État.
Alors que risque Christine Lagarde?
Alors au niveau pénal, elle risque un an de prison ou 15 000 euros d'amende. À noter quand même que la Cour de justice de la République n'a pour l'instant jamais dans son histoire condamné un accusé à de la prison ferme. Au niveau de sa carrière politique, la présidente du FMI n'est pour l'instant pas inquiétée. L'institution internationale l'a toujours soutenue, en lui confiant par exemple un second mandat de 5 ans en février dernier. Cet après-midi, le FMI a d'ailleurs réitéré sa confiance dans la capacité de la directrice à remplir efficacement ses obligations. De toute façon, le procès en question ne devrait se tenir que dans plusieurs semaines, voire certainement plusieurs années, car c'est là le rythme habituel de la Cour de justice de la République. Une cour qui a pris par exemple plus de 4 ans à rendre une décision après avoir été saisie début 2011 du cas Christine Lagarde.
Merci Sarah Maquet pour vos explications. Le Conseil constitutionnel valide le verrou fiscal de Bercy. Cette particularité française soumet d'éventuelles poursuites pénales pour fraude fiscale à l'autorisation préalable du ministère du Budget. Dispositif qui date de 1977 et qui faisait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité depuis le mois de mai dernier. Thomas Schoner, bonsoir.
Bonsoir Anne.
Les sages ont estimé que cette disposition ne porte pas atteinte au principe d'indépendance de l'autorité judiciaire ni à celui de séparation des pouvoirs.
Oui, aujourd'hui un procureur ne peut pas engager de poursuite contre quelqu'un qui fraude le fisc. C'est le ministère des Finances et du Budget qui décide, c'est-à-dire Michel Sapin. Et ce verrou est un outil fondamental. Il permet d'inciter notamment les évadés fiscaux à se régulariser. Vous payez vos impôts en retard, plus des pénalités. En échange, vous n'êtes pas poursuivi. Une logique qui a permis de faire rentrer en 3 ans près de 6 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Mais ce verrou pose également plusieurs questions. Le ministère n'a pas à se justifier sur ses choix. Le Conseil constitutionnel, de son côté, estime que, après tout, en cas de fraude fiscale, c'est le Trésor public et l'administration qui sont les premiers concernés, qui sont les premières victimes. Mais ce n'est pas l'avis de Clarisse Taron, la présidente du syndicat de la magistrature.
Évidemment que la victime d'une fraude fiscale, c'est tout citoyen qui bénéficie du budget de l'État. Et c'est pour ça qu'on rappelait la Déclaration des droits de l'homme qui dit bien que l'impôt, c'est une contribution commune. Tout citoyen peut en constater la nécessité et en déterminer le recouvrement.
Voilà, Clarisse Taron qui souligne également que la fraude, elle, aux prestations sociales ne bénéficie d'aucun verrou. Après l'échec de cette QPC, les détracteurs du verrou de Bercy ont encore une chance. Le projet de loi Sapin 2, relatif à la lutte contre la corruption et la transparence de la vie économique. Le syndicat de la magistrature appelle les parlementaires à déposer des amendements pour mettre fin à cette spécificité française.
Les précisions de Thomas Schoner. François Hollande promet la transparence sur l'attaque de Nice qui a fait 84 morts il y a une semaine. Le chef de l'État s'est exprimé ce midi à l'issue du 4e Conseil de défense et de sécurité restreint. Après les critiques de l'opposition sur le dispositif de sécurisation de la promenade des Anglais le soir de l'attentat, critique relancée hier matin par le journal Libération, le président a également renouvelé sa confiance en son ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Bonsoir Stéphane Robert.
Oui, bonsoir Anne.
François Hollande a aussi promis rapidement les résultats de l'enquête de la police des polices commandée hier par le ministre de l'Intérieur.
Oui, ce rapport sera publié la semaine prochaine, a dit le chef de l'État, et toute la vérité sera faite. Traduisez, inutile d'alimenter la polémique alors que toute la France est en vacances. Il est urgent d'attendre. Bref, vous allez voir, ça va se calmer, résume un ministre. Parce que quoi? Qu'est-ce qu'on lui reproche à la fin à Bernard Cazeneuve, poursuit ce ministre? A-t-il sciemment voulu travestir la réalité? Certainement pas. Au pire, c'est un problème de pédagogie et de méthode. Reconnaissez au moins un dysfonctionnement dans la transmission des informations, demande aujourd'hui le journal Libération, en partie à l'origine de la mise en cause du ministre. Le problème est que Bernard Cazeneuve a expliqué qu'il y avait une importante présence de la police nationale le 14 juillet sur la promenade des Anglais. En réalité, le dispositif de 64 policiers nationaux paraît assez léger. Et surtout, il a dit que des véhicules de police entravaient l'accès à la dite promenade. Il y en avait un et de la police municipale. Le préfet des Alpes-Maritimes explique aujourd'hui que c'est lui qui a transmis les informations au ministère, se positionnant comme un rempart, comme un fusible au cas où. Et dans la chaleur de l'été, ça va se calmer sans doute. Mais le problème est peut-être avant tout que la machine à rumeurs est en route. Machine à rumeurs qui s'est emballée sur Internet, sur les réseaux sociaux. Une machine à rumeurs qui navigue entre le procès en incompétence et la théorie du complot. Un exemple, un seul, avec cette demande confirmée par la section antiterroriste de faire effacer une partie des enregistrements des caméras de vidéosurveillance de ce 14 juillet dramatique à Nice. Officiellement, pour ne pas que puissent être diffusées ces images terribles des corps qui volent dans tous les sens. Mais sur les réseaux sociaux, et en particulier sur les réseaux d'extrême droite, c'est devenu, si on veut les effacer, c'est qu'il y a quelque chose à cacher. Et le problème avec les machines à rumeurs, c'est qu'une fois lancées, inutile de les alimenter, elles avancent toutes seules.
L'analyse de Stéphane Robert. À Beaumont-sur-Oise, 5 personnes ont été interpellées la nuit dernière après de nouveaux incidents en lien avec la mort mardi dernier d'Adama Traoré. Ce jeune de 24 ans a été arrêté pour rébellion après s'être opposé à l'interpellation de son frère visé par une enquête pour extorsion de fonds. Il était décédé peu après son interpellation dans le fourgon qui le ramenait à la gendarmerie. Hier, l'autopsie n'a pas révélé de traces de violence significatives et selon le procureur de la République de Pontoise, Adama Traoré souffrait d'une infection très grave touchant plusieurs organes. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de Beaumont-sur-Oise où la famille d'Adama Traoré a organisé en cette fin d'après-midi une marche blanche qui réunit toujours actuellement une centaine de personnes. Les proches du jeune homme décédé mardi ne sont pas convaincus par les conclusions du rapport d'autopsie.
Effectivement, et la famille d'Adama demande une contre-expertise. Elle ne croit pas en la thèse de la mort par hyperthermie ou des suites d'une maladie. Adama était un jeune homme en pleine santé pour ses proches. Il y a eu bavure policière, des violences qui ont provoqué sa mort, ce que contredit pour le moment l'autopsie. Alors ce décès d'Adama a provoqué des violences ces dernières nuits à Beaumont et Persan. On sentait de la colère chez certains habitants. Ce soir, la famille voulait du recueillement. Ça a été l'ambiance de ce début de rassemblement. On a entendu un discours très émouvant d'une sœur d'Adama. Ce combat, on va le mener jusqu'au bout. On a confiance en la justice. La vérité, on la veut. C'est ce qu'elle a dit. La jeune femme a lancé un appel à témoins. Tous ceux qui ont vu Adama mardi avant son interpellation doivent contacter notre avocat. Le cortège a ensuite entamé sa marche, d'abord silencieusement, et puis des slogans ont été scandés, justice pour Adama ou encore, je suis Adama Traoré. Une foule déterminée et calme ce soir à Beaumont.
Antoine Marette en direct de Beaumont-sur-Oise avec les moyens techniques de Jean-Pierre Pernel. 2 500 000 personnes sont encore infectées chaque année par le virus du sida dans le monde. C'est un chiffre en stagnation selon une étude de la revue médicale The Lancet HIV dévoilée à la conférence mondiale sur le sida qui se tient jusqu'à ce soir à Durban en Afrique du Sud. L'épidémie a déjà tué plus de 30 millions de personnes depuis les années 80 dans le monde et la France n'est pas épargnée puisque le nombre de contaminations stagne également aux alentours de 7 000 par an. Un chiffre élevé mais contrasté selon les régions. Bonsoir Willy Moreau.
Bonsoir.
Trois chercheurs de l'INSERM viennent de mettre au point la première carte régionale française concernant l'épidémie, avec pour but de mieux cibler les actions de prévention.
Oui, parce que la situation est loin d'être homogène. Trois régions concentrent à elles seules plus de la moitié du nombre des contaminations. L'Île-de-France, loin devant avec plus de 4 cas sur 10, suivent les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes. Un triste podium qui cache là encore des réalités différentes. Stagnation du nombre de cas en Île-de-France, augmentation en région PACA. Mais si l'on rapporte ces chiffres au nombre d'habitants, là ce sont les régions d'outre-mer les plus touchées. 18 cas pour 10 000 habitants en Guyane contre 4 cas sur 10 000 en Île-de-France. Ces chiffres permettent aux associations luttant contre le VIH d'intensifier leurs actions dans les régions les plus touchées. Des informations utiles, explique l'association AIDS. Jusqu'ici, elle n'avait accès qu'à des données très parcellaires. Désormais, elle va pouvoir communiquer davantage sur la prévention et surtout sur les dépistages, car au niveau national, plus de 3 ans s'écoulent entre l'infection et le diagnostic, une moyenne supérieure à la Réunion ou en Guyane, où le délai dépasse 4 ans. Et puis, les personnes malades sont différentes selon les endroits. En France métropolitaine, la majorité des cas sont des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Mais en Île-de-France, par exemple, les populations subsahariennes hétérosexuelles sont aussi très touchées. L'INSERM, grâce à cette étude, espère donc une diminution du nombre d'infections en aidant les associations à rendre plus efficaces leurs méthodes de prévention.
Un nouveau scandale de dopage à quelques semaines du début des JO de Rio le 5 août prochain. Deuxième série d'analyses opérées par le CIO sur des échantillons provenant des Jeux Olympiques de Pékin 2008 et de Londres 2012. Des substances interdites ont été détectées dans 45 cas qui s'ajoutent aux 53 athlètes déjà déclarés positifs ces dernières semaines par le Comité international olympique. Précision, Martin Lemaire.
En attendant les Jeux Olympiques, les jours passent et riment bien souvent avec dopage et scandale. Sur les 45 contrôles révélés positifs aujourd'hui, 30 correspondent aux Jeux de Pékin et 15 à ceux de Londres. Un pourcentage important concernerait des athlètes médaillés de 8 nationalités différentes. Avec les contrôles effectués précédemment, le nombre de cas positifs s'élève désormais à 98. Le CIO assure que les athlètes touchés par cette affaire encore en activité seront exclus des prochains JO de Rio. Cela permettrait notamment de connaître l'identité de ces sportifs et donc leur pays d'origine. Avec plus de 1200 échantillons analysés ces derniers mois, le CIO réaffirme sa volonté de lutter contre le dopage. Une lutte loin d'être terminée. L'instance doit encore rendre sa décision, exclure ou non l'ensemble de la délégation russe de Rio suite à l'affaire de dopage organisée.
À Hong Kong, un tribunal vient de reconnaître coupables les principaux organisateurs du mouvement des parapluies qui a eu lieu à l'automne 2014 dans plusieurs endroits de l'île. Ce jugement intervient alors que la population s'inquiète des ingérences de Pékin dans la gestion de la région administrative spéciale de la Chine. La correspondance de Florence Dechangy.
Les trois étudiants qui furent les figures de proue du mouvement de protestation pacifiste dit des parapluies viennent d'être jugés coupables de divers chefs d'accusation, notamment rassemblement illégal et incitation au désordre public. Tous trois ont été libérés sous caution. Ils comparaîtront à nouveau le 15 août pour connaître leur sentence. Ils risquent jusqu'à 2 ans de prison. Joshua Wong, 19 ans, le plus jeune et le plus charismatique des trois, a affirmé qu'il ne regrettait pas son action. « Quelle que soit la peine qui sera décidée, nous allons continuer le combat contre la répression du gouvernement. Nous savons que faire face au plus grand régime communiste du monde est une bataille à long terme pour la démocratie », a affirmé Joshua Wong, désormais habitués des visites au tribunal. Le 7 juin, les mêmes étudiants avaient été acquittés dans un autre dossier. Suite au jugement de jeudi, Amnesty International a toutefois déclaré que les accusations vagues portées contre les leaders étudiants avaient tout l'air d'un règlement de compte politique. Depuis le mouvement des parapluies, plusieurs jeunes Hongkongais se sont engagés en politique et ont créé 5 nouveaux partis. Certains ont l'ambition d'entrer au LECHCO, l'Assemblée nationale, à l'occasion des prochaines élections législatives, afin d'influer de l'intérieur sur le cours de la politique hongkongaise.
En Inde, d'importantes recherches sont lancées après la disparition d'un avion militaire avec 29 personnes à bord, avion qui a décollé de Chennai et qui était en route pour les îles indiennes d'Andaman et Nicobar. Il a disparu au-dessus du golfe du Bengale. Et puis, autre disparition d'avion dont dont on a beaucoup parlé, celle du Boeing 777 de la compagnie Malaysia Airlines. Il s'était volatilisé le 8 mars 2014 avec à son bord 239 personnes peu après son décollage de Kuala Lumpur. Les trois pays ayant perdu le plus de ressortissants, l'Australie, la Malaisie et la Chine, annoncent que les espoirs de retrouver l'appareil s'amenuisent et que les recherches seront bientôt suspendues. Disparition qui reste l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'aviation civile. La météo de votre samedi, elle restera agréable dans de nombreuses régions, mais l'instabilité régnera encore sur une grande partie est du pays. La Corse sera épargnée avec de belles éclaircies, mais quelques départs d'averses néanmoins. Et les températures au petit matin, il fera 16 à Lille, 15 à Nantes, 18 à Lyon et 22 à Ajaccio.